Bon, si vous voulez, on va reprendre. Donc, je débute maintenant le cours numéro 4, qui est la suite du précédent. Et mais maintenant, on étudie les perturbations liées aux interactions entre un atome et un champ haute fréquence. Dans le cours précédent, la fréquence du champ était supposée proche d'une transition atomique, de sorte que on pouvait ignorer tous les autres niveaux. C'est ce qui permettait de faire des calculs relativement simples. Alors, ici, je prends un autre cas limite, le cas où la fréquence du champ est grande devant toutes les fréquences atomiques concernées, oméga très grande devant oméga Ij, de sorte que des expressions simples peuvent être obtenues en développant les expressions des divers effets en puissance de oméga Ij sur oméga. Et à ce moment-là, on peut de nouveau obtenir des images physiques et des interprétations simples. Alors, le plan de cette quatrième séance sera tout d'abord étudier le cas d'un spin 1/2, très simple, problème très simple à deux niveaux, couplé à un champ de radiofréquence haute fréquence. La fréquence de Larmor du spin est beaucoup plus petite que la fréquence oméga du champ. Je vous montrerai qu'à ce moment-là, que le moment magnétique de spin de la particule est modifié par l'interaction, voire même annulé. Interpréter physiquement cet effet et décrire les expériences qui ont permis de le mettre en évidence. Puis, je passerai au cas d'un électron faiblement lié, par exemple dans un état de Rydberg, couplé à un champ laser haute fréquence. Et je me poserai la question des modifications des propriétés dynamiques de l'électron, d'interprétation physique de ces modifications. Enfin, dans la dernière partie, j'essaierai de faire la connexion entre ces effets de couplage avec un champ haute fréquence et les effets de l'électrodynamique quantique liés aux interactions entre un système atomique, un électron, et un mode haute fréquence du champ électromagnétique dans le vide, sans aucun photon incident. Et je vous montrerai que ceci permet d'obtenir un nouvel éclairage sur les corrections radiatives et en particulier de comprendre pourquoi G-2 est positif. Donc je prends d'abord le cas de spin 1/2 couplé à un champ haute fréquence. Voici la disposition expérimentale étudiée. Il y a un champ magnétique le long de l'axe Z, B0, et un champ de radiofréquence polarisé linéairement, B1 cosinus oméga T, le long de l'axe X. Oméga 0 égale moins gamma de B0 est la fréquence de Larmor, gamma étant le rapport ferromagnétique, et la fréquence de Rabi, c'est oméga égale moins gamma B1, toujours gamma, et B1, c'est l'amplitude du champ de radiofréquence. Haute fréquence, ça veut dire que oméga est très grande devant oméga 0. Alors, l'Hamiltonien semi-classique pour un tel système, c'est l'Hamiltonien Zeeman, h bar oméga 0 Sn, plus l'Hamiltonien d'interaction avec le champ de radiofréquence, plus h bar oméga 1 Sx cosinus oméga t, où Sx, c'est la composante long de l'axe X de l'opérateur spin. Problème, est-ce que la précession de Larmor autour de B0 est modifiée par l'interaction avec le champ B1? Alors, pour répondre à ce problème de manière simple, évidemment on peut le faire classiquement, mais il se trouve là encore, le traitement quantique du champ est particulièrement commode parce qu'il permet d'arriver rapidement au résultat et il donne une image physique beaucoup plus claire. Alors, si on prend un traitement quantique maintenant du problème, l'Hamiltonien, c'est H bar oméga 0 Lz, l'Hamiltonien Zeeman qui n'est pas changé, plus H bar oméga A croix A, l'interaction du spin avec, pardon, l'Hamiltonien du champ, de fréquence oméga, A croix et A sont les opérateurs de création et de destruction d'un photon radiofréquence, plus l'interaction entre Fx et l'opérateur champ magnétique, qui est une combinaison linéaire de A et A croix que je peux toujours, moyennant un choix convenable de l'origine, écrire sous la forme A plus A croix lorsqu'on fait l'approximation dipolaire magnétique. Et lambda est une constante de couplage. Alors, pour calculer la constante de couplage, on fait le raisonnement suivant, on se dit, on est quand même dans un système qui est classique, si on prend un champ de radiofréquence dans un état cohérent, alpha à puissance moins j oméga t, vous savez que dans un état cohérent, la dispersion delta n du nombre de photons est très petite devant la valeur moyenne de n, ben, dans cet état cohérent, je peux remplacer les éléments de matrice de a et a croix, qui sont principes racine de n plus 1 et racine de n, par racine de valeur moyenne de n. Et quand on fait cela, on trouve que la valeur moyenne de l'interaction, lambda fx a plus a croix dans l'état cohérent, si on l'identifie avec la valeur classique h bar oméga 1 cosinus oméga t, ça permet de faire une relation entre lambda, oméga 1 et le nombre moyen de photons m, qui permet de faire le raccord entre la théorie quantique et la théorie classique. Alors, je reprends comme tout à l'heure, les niveaux non perturbés, le spin dans l'état plus ou dans l'état moins, en présence de n photons de radiofréquence, donc ils sont séparés par la fréquence de l'armement. Ici, je fais h bar égal à 1, ils sont séparés par la fréquence de l'armement oméga 0. Les mêmes états avec un photon de plus, ils sont à une distance oméga au-dessus. Les mêmes états avec un photon de moins, ils sont à une distance oméga en dessous. Maintenant, la Hamiltonienne interaction, c'est lambda fx a plus a croix, que je peux écrire lambda sur 2 s plus s moins, où s plus c'est l'opérateur qui monte mx d'une unité et s moins qui diminue d'une unité, a plus a croix. Et cet opérateur-là obéit aux règles de sélection, fait passer de plus à moins, de moins à plus, de plus à moins, et puis il augmente n, diminue n d'une unité. Ceci montre que l'état plus n est couplé forcément à un état moins, et n est soit augmenté d'une unité, soit diminué d'une unité. Donc les deux couplages s'effectuent à partir de plus n, c'est vers moins n plus 1 et vers moins n moins 1, avec cet écart d'énergie ici et cet écart d'énergie ici. Si je prends maintenant l'état moins n, il est couplé à plus n plus 1 ou à plus n moins 1, avec ces deux écarts d'énergie. Maintenant, appliquons la théorie des perturbations pour calculer le déplacement des niveaux. Alors, l'état plus n est couplé à cet état, donc au second ordre, on a le carré de la perturbation divisé par l'écart d'énergie, donc lambda 2 sur 4 h bar 2 vers la moyenne de n, et le déplacement est vers le bas, moins 1 sur oméga moins oméga 0, et puis le couplage avec cet état-là, lui, le déplacement se fait vers le haut, mais comme cet écart d'énergie est plus grand que celui-là, oméga plus oméga 0, quand on fait la somme des deux, on obtient un déplacement global qui est négatif, qui est delta plus, qui est moins lambda 2 sur 4 h bar 2 vers la moyenne de n, moins 2 oméga 0 sur oméga 2 moins oméga 0. Donc vous voyez que cet état est couplé par celui-là qui est plus proche que celui-là, donc le déplacement a un signe qui est déterminé par cet état, et voilà la valeur du déplacement, moins oméga 0, oméga 1 carré sur 8 oméga 2. Si je prends maintenant l'autre état, moins n, même chose, l'état moins n est couplé à cet état et à cet état, donc il y a deux déplacements du second ordre, mais celui-ci étant plus proche, le déplacement va l'emporter, et le déplacement est vers le haut, delta moins, et on le trouve égal à l'opposé du précédent. Donc, sous l'effet de ces couplages, on voit que l'écart entre les deux niveaux va changer, et la nouvelle fréquence de l'armement va devenir oméga 0 tilde ou bar égale oméga 0 plus moins delta moins, c'est-à-dire oméga 0 1 moins oméga 1 carré sur 4 oméga 2, et comme elle est proportionnelle à oméga 0, on voit que ceci correspond à une diminution du moment magnétique égale à 1 moins oméga 1 carré sur 4 oméga 2. Alors, l'interprétation est simple, on peut donner une interprétation semi-classique. Que peut faire un spin dans un champ? La seule chose que peut faire un spin dans un champ, c'est de tourner, en gardant la même longueur, c'est une précession. Donc, dans le champ de radiofréquence, le spin tourne, vibre angulairement, à la fréquence oméga du champ, c'est le mouvement forcé. Et dans un tel mouvement de vibration forcée, quand je considère la valeur moyenne, quand je ferai la résultante géométrique de tous ces vecteurs, j'obtiens une composante statique qui est nécessairement plus petite que la longueur de chaque spin. D'accord ? On a un vecteur qui tourne en gardant une longueur constante, et quand je pense à la valeur moyenne sur le temps, je vais avoir un vecteur qui aura une longueur plus petite. Donc la composante statique a nécessairement une longueur plus courte, ça veut dire que le moment magnétique statique effectif est plus petit. Et c'est cette composante statique qui interagit avec un champ statique, qui se moyenne pas à zéro, qui va donner donc une énergie magnétique plus faible. Alors, ceci dit, on peut faire un calcul non perturbatif quantique, et c'est expliqué dans le complément acide du processus d'interaction, et c'est également, c'était le sujet d'une partie importante de la thèse d'état de Serge Laroche, en 1971. C'est un exemple type de problème. La Hamiltonienne, si on prend le champ magnétique nul, si on prend oméga 0 égale 0, la Hamiltonienne se réduit à h bar oméga a croix a plus lambda fx a plus a croix. Et ça, c'est un Hamiltonien qui est exactement diagonalisable. Pourquoi? Parce que c'est un Hamiltonien quadratique. Pour chaque valeur propre de fx, c'est un Hamiltonien quadratique qui peut être diagonalisé par une certaine transformation. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les valeurs propres et les états propres exacts de cet Hamiltonien, on peut traiter oméga 0 et z par la théorie des perturbations et calculer comment les niveaux d'énergie partent, donc fait croître oméga 0, et le résultat qu'on trouve quand m est grand, le nombre de photons grands, trouve finalement que la fréquence de Larmor, perturbée, oméga 0 bar, est égale à oméga 0, qui multiplie la fonction de Bessel d'ordre 0, J0, de oméga 1 sur oméga. Oméga 1, la fréquence de Rabi, oméga, la fréquence du champ. Ce résultat, on peut aussi le comprendre semi-classiquement, de la manière suivante. Le mouvement de précession de Sy plus Isz autour de B1 quand le champ magnétique statique est nul, obéit à l'équation de précession d'un spin, d sur dt de Sy plus Isz égale I oméga 1 cosinus oméga t Sy plus Isz. Ceci s'intègre, et Sy plus Isz est exponentielle de I oméga somme de cosinus oméga t d oméga dt, et ça c'est exponentielle I oméga 1 sur oméga sinus oméga t, et ça reconnaît qu'on développe cette fonction périodique, on reconnaît la modulation de fréquence, et on voit apparaître somme sur n de moins l'infini à plus l'infini de jn de oméga 1 sur oméga puissance pn oméga t, et la partie statique de ce développement, qui est importante pour le couplage avec le champ statique qu'on introduit ensuite, c'est forcément j0 de oméga 1 sur oméga. Donc on voit ici un résultat intéressant, c'est que le moment magnétique de spin d'un atome, dans l'état fondamental, peut être modifié par le couplage avec un champ de radiofréquence haute fréquence, et qui peut même être annulé. Il suffit de régler oméga 1 sur oméga à la valeur correspondant à un 0 d'une fonction de Bessel. Le premier 0, c'est oméga 1 sur oméga, je crois que c'est de l'ordre de 2.4. Alors, observation expérimentale, ça c'est fait par plusieurs méthodes différentes, j'en donne une d'entre elles, parce qu'elle a résulté d'une collaboration avec l'équipe de Audouin et Sherman à l'horloge atomique. On a comparé le spectre hyperfin, Zeeman hyperfin, de l'état fondamental du rubidium 87, et également étudié en parallèle le diagramme, le spectre Zeeman hyperfin de l'atome d'hydrogène grâce à un maser à hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit là l'état fondamental du rubidium 87, l'état fondamental de l'hydrogène. On fait des transitions de micro-ondes, sigma. Alors, transition micro-ondes sigma, ça connecte les deux niveaux hyperfins avec delta M égale plus ou moins 1. Et vous voyez à ce moment-là que pour l'atome d'hydrogène, il y a cette transition-là qui va de 0 à moins 1 et cette transition qui va de 0 à plus 1. Donc l'écart est deux fois l'effet Zeeman. Et pour le rubidium, il y en a 4, de là à là, le facteur de Landé dans F égale 1 et l'opposé dans F égale 2, donc on a 4 fréquences différentes séparées par un multiple de la fréquence de Larmor dans l'état fondamental et dans l'état excité, dans l'état hyperfin F égale 2, dans l'état hyperfin F égale 1. Et on peut suivre comment ce spectre Zeeman hyperfin est modifié quand on ajoute en plus un champ de radiofréquence haute fréquence sur les deux atomes. Et voilà les résultats. Voilà par exemple le résultat sur le spectre Zeeman hyperfin du rubidium. Quand il n'y a pas de champ de radiofréquence, voilà les 4 rays tout à l'heure, et puis quand on applique un champ de radiofréquence, on voit les 4 rays se rapprocher. On n'a plus qu'une seule, quand on est au zéro de la fonction de Bessel, voilà, on a toutes ces rays se sont condensées en une seule, et puis de nouveau elles réapparaissent quand on est dépassé le zéro de la fonction de Bessel. Et si on porte sur ce graphique les résultats obtenus chez nous là sur le rubidium et à Orsay sur l'hydrogène, en prenant comme unité gamma H1 sur oméga, elles tombent tous exactement sur la fonction de Bessel J0. Donc ça, c'était une expérience faite en 70. Alors, il y a eu même quelque chose de plus. Au cours de sa thèse de troisième cycle, Claire Landré, qui est maintenant Claire Lullier, a également étudié la précession de Larmor de ces spins en prenant deux faisceaux sigma plus dans le plan perpendiculaire au champ magnétique et en détectant indépendamment Sx et Sy. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit ici, donc, en absence de champ de radiofréquence, la précession de Larmor amortie par la relaxation dans l'état fondamental, quand on augmente oméga 1, cette précession se ralentit, elle devient anisotrope, elle s'arrête complètement quand on est au zéro de fonction de Bessel pour repartir. Alors pourquoi elle devient anisotrope? C'est parce que les fonctions d'onde sont également modifiées et que Sy est modifié par la fonction de Bessel alors que Sx ne l'est pas, et c'est ça qui rend une précession de Larmor anisotrope. Conclusion de cette étude, le facteur G d'un spin est modifié par un couplage avec un champ de haute fréquence et le G du spin habillé n'est pas le même que le G du spin nu. Alors, quand on voit ceci, On se dit, il y a un autre effet en physique qui est important, qui jouera l'importance, c'est la modification du facteur G d'un électron par couplage avec le vide, c'est ce qu'on appelle l'anomalie G-2. On apprend tous, quand on fait de la physique atomique, que G est augmenté par rapport à 2, G est un peu plus grand que 2, G-2 est positif. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question suivante? On a le moment magnétique de spin de l'électron, il est couplé avec les fluctuations du vide. Les fluctuations du vide, c'est une énergie 1,5 de h bar oméga par mode. On calcule l'effet précédent en moyenne sur tous les angles, à fréquence oméga fixe, et puis on intègre sur oméga avec une densité d'énergie 1,5 de h bar oméga. Et on trouve quelque chose qui est de l'ordre de alpha sur pi, alpha sur 2 pi, qui est le résultat de l'électrodynamique quantique, mais avec le signe moins. Et c'est facile de comprendre pourquoi c'est le signe moins, c'est que je viens de vous montrer que cet effet de modification du spin interagissant avec un champ haute fréquence, c'est toujours une diminution. Ce n'est pas parce qu'on va intégrer sur toutes les fréquences possibles qu'on va obtenir une augmentation. On trouve toujours une diminution. Alors je sais que ça c'est un problème qui nous avait extrêmement perturbé. C'était vexant d'arriver à trouver alpha sur 2 pi par ce petit raisonnement simple, mais le signe était mauvais. Alors on s'est dit, ça c'est sans doute dû au fait que l'électron a une charge, et que cette charge aussi vibre dans les fluctuations du vide, et qu'il y a peut-être des effets croisés charge-spin qui vont redonner un signe plus. D'où ça a orienté notre recherche dans une autre direction. On s'est dit, on va maintenant prendre un électron faiblement lié, couplé à un champ haute fréquence. Et on va se poser la question suivante, comment l'électron est faiblement lié, donc il a un mouvement lent. Comment le mouvement lent de la charge et du spin de l'électron va-t-il être modifié par le mouvement rapide de l'électron, de la charge de l'électron et du spin dans le champ haute fréquence? Parce que l'atome qu'on avait étudié auparavant était un atome neutre, il n'y avait pas de charge. Est-ce qu'on peut obtenir un nouvel hamiltonien effectif décrivant le mouvement lent avec une nouvelle masse, un nouveau moment magnétique, un nouveau facteur de forme électrique et magnétique? Est-ce qu'on peut comprendre semi-classiquement toutes ces modifications? Et une fois qu'on a fait ce travail avec un champ appliqué, est-ce qu'on peut à ce moment-là prendre le champ du vide avec une densité 1,5 de h bar oméga par mode, et est-ce qu'on peut à ce moment-là comprendre G-2 sans signe positif? Ça, on s'est fixé ce programme, et il y a eu toute une série de tests de troisième cycle, de tests d'état qui ont été consacrés à ce sujet, que je voudrais maintenant rapidement expliquer. Je donne ici quelques références. Il y a eu en particulier donc, des travaux avec Paul Avant, Claude Fable, Jacques Liporoc également, puis Jean Dalibard, et toute une série de travaux dont je donne les références ici. Alors, là de nouveau, il faut reprendre l'hamiltonien du problème. Alors c'est plus compliqué que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait un spin 1,5 dans un champ magnétique, maintenant on a un H électron plus H champ plus H interaction. Et H électron, maintenant on a un électron avec toute une série de termes, MC2, l'énergie au repos, plus π0,2 sur 2m, l'énergie cinétique, plus qφ0, l'interaction avec un champ, le potentiel extérieur, moins qh bar sur 2m, σb0, plus on veut faire un calcul tenant compte de toutes les corrections relativistes à l'ordre 1 sur C2 inclus. Donc plus les corrections relativistes, spin orbite, Darwin à l'ordre 1 sur C2 inclus. A0 et φ0 sont les potentiels vecteurs et scalaires statiques. Donc π0 ici, c'est la vitesse, c'est P moins QA0. Le champ magnétique, c'est le rotationnel de A0. Et le spin, c'est h bar sur 2m sigma. Voilà pour h électron. H champ, c'est somme sur les modes de h bar oméga à croix plus 1,5. Et hi, c'est la multiplication d'interaction d'une charge et d'un spin avec le champ. On a moins q sur m a2r pi 0, plus le terme en q2 a2, plus le terme en sigma b, plus les corrections relativistes à l'ordre 1 sur c2 inclus. A et b étant les opérateurs champ de rayonnement, qui sont des superpositions linéaires de a et a croix. Et on va ici se limiter à un des modes du champ. Si on fait un calcul à l'ordre 2 en Q, à ce moment-là, on peut calculer l'effet pour un mode et sommer indépendamment sur tous les modes. Il n'y a pas de terme croisé à l'ordre 2 en Q. Alors, comme je vous le dis, il n'est pas question ici que je fasse des calculs, parce qu'il y a quand même un énorme travail dessous. Je vais donner simplement la philosophie du calcul et les résultats. Alors, si on prend d'abord les multiplicités atomes électrons faiblement liés plus champ, plus mode oméga, en l'absence de couplage, voilà à quoi elle ressemble. Ici, c'est la multiplicité des états de l'électron, maintenant il y en a une infinité, parce que c'est plus un spin 1,5, mais j'ai un électron qui est faiblement lié, donc il a une infinité d'états, très rapprochés les uns des autres, en présence de n photons. la même chose en présence de n plus un photon, en présence de n plus deux photons, en présence de n moins un photon, n moins deux, et ainsi de suite. Et la distance entre deux multiplicités, c'est h bar oméga, l'énergie d'un photon haute fréquence. Quand je prends maintenant la Hamiltonienne d'interaction, il y a des termes linéaires en Q, qui sont des combinaisons linéaires de A et A croix, et qui couplent En à En plus 1 et En à En moins 1, avec des éléments de matrice en racine de N plus 1, parce que j'ajoute un photon ici, et en racine de N, je diminue un photon. Et cette fois-ci, je garde la différence entre N plus 1 et N, parce que, pour une raison qui apparaîtra tout à l'heure. Puis, j'ai le terme en Q2. Alors, les termes en Q2, il va y avoir les termes en A croix et A croix A, ils vont coupler N à lui-même, c'est la partie diagonale de cet Hamiltonien, H2, et puis il y a des termes en A carré et A croix carré qui vont coupler N à N plus 2 et N moins 2. Comme je me fais un calcul limité à l'ordre 2, l'effet sur le N sera au moins d'ordre 4, Q4, donc je les néglige. Je néglige ces termes-là. Je garde uniquement cela. Et à ce moment-là, l'idée du calcul est la suivante. Est-ce qu'on peut effectuer une transformation unitaire sur l'Hamiltonien telle que les diverses multiplicités EN deviennent découplées les unes des autres à un ordre donné, en Q, ici l'ordre 2. Et si je fais cela, la restriction du nouvel Hamiltonien à l'intérieur de EN, ça sera un Hamiltonien effectif qui décrira à l'ordre 2 en Q toutes les modifications des propriétés dynamiques de l'électron. Ça, c'est une démarche qu'on suit toutes les fois qu'on veut, par exemple, trouver une interaction effective, par exemple, en supraconductivité, l'interaction effective entre deux électrons, par exemple, le phonon, c'est une méthode très générale, la méthode de l'Hamiltonien effectif. Alors, quand on fait ça, on trouve un résultat très simple. On trouve que, quand on cherche cette transformation unitaire, on trouve que l'Hamiltonien effectif, c'est un élément de matrice entre deux états alpha et bêta de la même multiplicité n. C'est d'abord l'élément diagonal, bien sûr, de l'électron, de la vision électronique, plus la partie diagonale de V2. Et quand on prend V1, maintenant, l'Hamiltonien à un photon, on part de bêta, on va à gamma, un autre état électronique avec un photon de plus ou un photon de moins, et on revient à alpha, en passant de gamma n plus ou 1 à alpha. Donc c'est une formule qui ressemble à la théorie des perturbations, divisée par un dénominateur d'énergie, mais comme l'état bêta ici n'est pas le même que l'état alpha, on trouve un résultat qui est très satisfaisant, on trouve que c'est la demi-somme du dénominateur d'énergie associé à bêta, 1 sur bêta n moins gamma et gamma n plus 1, ou moins 1, plus 1 sur et alpha n, moins et gamma n plus ou moins 1. Donc ça rappelle beaucoup la formule des perturbations, à part le fait que comme on a alpha différent de bêta, il faut prendre la demi-somme de deux dénominateurs d'énergie. Et ça, c'est rigoureux, hein. C'est l'Hamiltonien effectif à l'ordre 2. Une fois qu'on a obtenu cette expression, vous voyez qu'on va obtenir des dénominateurs d'énergie qui vont être de la forme 1 sur, j'en prends 1 au hasard, 1 sur E alpha n moins E gamma n plus 1. Alors, E alpha n, c'est E alpha plus n h bar oméga. E gamma n plus 1, c'est E gamma plus n plus 1 h bar oméga. Quand je prends la différence des deux, je trouve 1 sur E alpha moins E gamma moins h bar oméga. Et comme l'électron est faiblement lié, cette quantité est très petite devant h bar oméga, et je peux faire un développement en série, et faire ça sous la forme moins 1 sur h bar oméga, moins 1 sur h bar oméga au carré, et alpha moins et gamma, je remonte les différences d'énergie électronique au numérateur. Et quand on fait ça, là-dessus, quand je pars de cet élément de matrice divisé par ce dénominateur d'énergie que je le remonte au numérateur, comme ceci, je vois apparaître alpha V1 et gamma, la partie purement électronique, multiplie E alpha moins E gamma. Et à ce moment-là, E alpha moins E gamma, je peux le rentrer dans un commutateur entre HE et V1E. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai réabsorbé toutes les différentes énergies électroniques dans un commutateur électronique. Et quand je ferai la somme sur l'état intermédiaire, il n'y aura plus, je pourrai utiliser la relation de fermeture et obtenir l'élément de matrice entre alpha et bêta d'un opérateur purement électronique. Ça, c'est un peu la philosophie générale du calcul. Elle explique en détail dans les références que je vous ai données. Le résultat intéressant à la fin du calcul, c'est que on trouve que l'Hamiltonien effectif, c'est une somme de deux termes, n plus 1 r plus ns. N plus 1, c'est quand on monte vers le haut, quand on descend, on a la racine de n plus 1, racine de n plus 1, ça va me donner n plus 1. Et puis R, ça va être un opérateur purement électronique que je sais écrire, qui est un opérateur qui résulte de commutateurs d'opérateurs électroniques. On peut écrire son expression explicitement. Et puis quand on va vers le bas et qu'on remonte, on va avoir un terme en NS, où S est un autre opérateur électronique. Et cette expression, je peux l'écrire N fois R plus S plus R. Alors ça a l'air trivial comme ça, mais R et S, c'est des opérateurs qui ont une forme assez complexe, il y a beaucoup de termes. Mais l'interprétation de ce résultat est maintenant claire. Les termes qui sont proportionnels à N, ce sont des termes qui sont proportionnels à l'intensité incidente. Ce sont donc des termes qui décrivent les effets stimulés, absorption, émission stimulée de photons par l'électron. Ils décrivent les effets de la vibration, de la charge et du spin dans le champ incident. Et les termes qui sont indépendants de N, c'est des termes qui existent même si N égale 0, c'est des termes spontanés. C'est des termes qui vont décrire l'interaction avec le champ quand le champ est dans l'état vide, quand il n'y a aucun photon. Et vous voyez que l'intérêt d'avoir gardé racine de n plus 1 et racine de n, c'est que dans ce calcul, on sépare sans ambiguïté les effets stimulés, les effets spontanés, et qu'on peut ensuite les comparer, voir s'ils sont les mêmes, s'il y a des effets nouveaux dans les termes spontanés par rapport aux termes stimulés. Alors, il y a un certain nombre d'énergies caractéristiques dans ce problème. L'énergie au repos de l'électron, MC2, l'énergie du photon H bar oméga, l'énergie de liaison de l'électron EI. Alors, électron faiblement lié, ça veut dire que EL, l'énergie de liaison est petite devant H bar oméga. Il y a une énergie qui apparaît dans les calculs et qui joue un rôle fondamental, c'est Q2 et 2 sur 2m oméga 2, c'est l'énergie cinétique d'un électron qui vibre dans le champ de fréquence, donc il est exécute un mouvement de vibration, et c'est l'énergie cinétique de vibration moyenne. D'accord ? Quand on a un électron qui est dans un champ, il vibre avec une certaine amplitude, une certaine vitesse, on peut calculer son énergie cinétique, et Q2 et 2 sur 2m oméga 2, c'est l'énergie de vibration de l'électron dans le champ haute fréquence. Quand l'électron vibre, il explore l'espace sur une petite longueur, delta x, et delta x carré, c'est Q2 et 2 sur M2 oméga 4. Ces deux quantités apparaissent dans les calculs. Et en fait, toute une série de termes apparaissent, il y a des flopées de termes qui apparaissent dans ce calcul, et on ne garde que les plus importants, les termes linéaires en EV, les termes linéaires en EL et les termes quadratiques en EL qui sont prédominants. Alors, je ne donne pas ici l'expression de tous ces termes, je voudrais simplement dire qu'ils sont tous interprétables classiquement. Et je voudrais donner un certain nombre d'exemples pour vous montrer à quel point c'est intéressant, on peut vraiment comprendre à fond ce qui se passe. Alors, premier effet qu'on trouve, je vous donne un certain nombre d'exemples d'effets stimulés. On trouve d'abord que tous les niveaux d'énergie de la multiplicité N sont déplacés en bloc de EV. Ça veut dire que l'électron vibrant acquiert une énergie cinétique et que ça, il vibre de la même manière quel que soit l'état, et tout ça, ça déplace en bloc les niveaux d'énergie. Et si je dessine ici, par exemple, le cas des électrons de Rydberg, les états de Rydberg, tous les états de Rydberg, y compris le continuum, sont déplacés de EV. Alors, si je prends un vrai atome, il a aussi un état fondamental, qui lui est fortement lié, et pour lequel ce calcul ne s'applique pas. Et l'état fondamental va subir un déplacement, mais si par exemple le champ haute fréquence a une fréquence haute par rapport aux énergies qui séparent les états de Rydberg, mais plus petite que l'énergie de résonance à partir de l'état fondamental lui va être déplacé vers le bas. Ça va être le déplacement lumineux étudié dans le cours précédent. Mais en général, le déplacement de l'état fondamental est négligeable devant le déplacement de tous les niveaux de Rydberg. Et voyez en particulier qu'un premier effet qui apparaît ici, c'est que le seuil d'ionisation de l'atome, qui est l'écart entre l'énergie de l'état fondamental et l'énergie du continuum ici, va être augmenté. Le seuil d'ionisation de l'atome va être augmenté par cet effet. Et nous verrons que ces effets ont été observés et jouent un rôle absolument crucial dans les processus multiphotoniques optiques. Deuxième exemple d'effet. À cette énergie de vibration EV correspond une variation de masse au repos, delta M, qui est delta M égale EV sur C2. Et on trouve effectivement dans le calcul qu'il faut remplacer π02 sur 2M par π02 sur 2M moins delta M sur M, π02 sur 2M, qui est le début du développement de π02 sur 2M plus delta M. On trouve donc que l'énergie cinétique est modifiée parce que l'électron est alourdi par cette énergie de vibration, par l'accroissement de masse associé à cette énergie de vibration. Autre exemple, l'électron qui vibre n'est plus localisé en un point d'espace, il explore un petit segment, Et s'il est dans un potentiel extérieur, un potentiel électrostatique par exemple, il va moyenner le potentiel électrostatique sur l'étendue de son mouvement de vibration. Et quand on fait un développement de phi 0 de R plus delta R, un développement limité à l'ordre 1 plus l'ordre 2, le terme d'ordre 1 va se donner 0 parce que la valeur moyenne de R est nulle, mais le terme d'ordre 2 ne va pas être donné 0. Et on trouve donc qu'il y a une variation d'énergie potentielle, qui est delta phi 0, qui est Q2E2 sur 2m de oméga 4, c'est le delta X2 que j'avais donné tout à l'heure, que multiplie la dérivée seconde du potentiel le long de la polarisation du champ, c'est-à-dire le long de la direction du mouvement de vibration. Ça veut dire que le potentiel extérieur dans lequel l'électron est placé va être modifié par ce mouvement de vibration. Autre exemple encore. Ça, c'est un exemple qui nous a beaucoup amusé quand on faisait ces calculs. Si la polarisation est circulaire, l'électron, son mouvement de vibration va être un petit cercle. Il va faire un petit cercle. Et à ce petit cercle de l'électron va correspondre à un moment magnétique orbital. Et ce moment magnétique orbital va être couplé au champ statique et ça va donner un terme nouveau, qui est le couplage entre ce moment magnétique induit par la rotation dans un champ sigma plus et le champ statique. Autre exemple, on retrouve bien sûr la vibration du moment magnétique dans le champ magnétique oscillant de l'onde. Ça, c'est l'esprit que j'avais étudié précédemment. Il y a encore un effet qui vous avait demandé beaucoup de mal pour le comprendre, c'est que quand l'électron vibre, il a une vitesse V qui est périodique, et il vibre dans le champ magnétique de l'onde, incident, qui est lui aussi un champ périodique. Pardon, il vibre dans le champ électrique de l'onde, qui est lui aussi périodique. Alors, le champ magnétique motionnel V vectoriel est sur ces deux. Le champ magnétique motionnel lié à ce mouvement de l'électron dans le champ électrique, comme V est modulé et que E est modulé, ils sont rectifiés, il y a un terme indépendant du temps, et ça va donner un champ magnétique statique motionnel dû à la vibration de l'électron dans le champ électrique de l'onde incidente, qui va se coupler au champ magnétique, ça va donner un terme supplémentaire. Donc, on a toute une série de termes, et tous ces termes peuvent être interprétés complètement, et on retrouve exactement le résultat dans le calcul. Alors, passons maintenant aux effets spontanés. Alors, les effets spontanés, je vous rappelle ça tout à l'heure, c'était N fois R plus S plus R. Alors, R, on peut l'écrire 1 demi de R plus S plus 1 demi de R moins S. Ça, c'est trivial. Mais quand on l'écrit comme ça, ça permet de dire la chose suivante, c'est le terme en 1 demi de R plus S, il a exactement la même structure que le terme N R plus S, à part que N est remplacé par 1 demi. Donc ce terme, ça va avoir les mêmes interprétations que les effets stimulés, complètement, à part que on remplace le champ incident par un champ fluctuant de puissance spectrale, 1 demi de H bar oméga par mol. Mais vous voyez que maintenant on a un autre terme, 1 demi de R moins S. Et celui-là, il ne ressemble pas à l'autre. Alors qu'est-ce que représente ce terme? Si on ne croit pas en fluctuation du vide, si on dit qu'il n'y a pas de fluctuation du vide, il y a quand même l'électron crée lui-même un champ. Et il peut interagir avec son propre champ. C'est ce qu'on appelle la réaction de rayonnement ou la self-réaction, l'autoréaction. Donc ce deuxième terme, alors, bon, bien sûr, il faut croire aux fonctions du vide, le premier terme est là, hein, 1 demi de R plus S, il est là. Bon. Mais ce deuxième terme va décrire l'interaction de l'électron avec son propre champ. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui. On a confirmé cette interprétation de la manière suivante. On prend le problème d'un autre point de vue maintenant. On parle des équations de Heisenberg. Et à partir de la Hamiltonienne totale, on peut écrire les équations de Heisenberg pour l'électron et pour le champ. Comme la Hamiltonienne pour le champ, c'est A croix A plus un terme en A et un terme en A croix, l'équation de Heisenberg pour le mode oméga du champ est celle d'un oscillateur harmonique couplé à un terme source. Et quand on intègre cette équation, on a une équation d'oscillateur harmonique couplée à un terme source, qu'on va voir. Et le champ total va être le champ du vide, c'est-à-dire la solution de l'équation homogène sans terme source, le terme qui existerait même s'il n'y avait pas de source, ça c'est le champ du vide, plus E source, c'est l'interaction de l'électron, c'est le champ créé par l'électron, par la charge, par exemple le champ Coulomb. Le champ de source, donc la solution de l'équation inhomogène avec le terme source. Et puis alors on prend cette solution pour E, on la reporte dans l'équation de Heisenberg de l'électron. Et quand on a l'équation de Heisenberg de l'électron, elle fait intervenir le champ E au point où se trouve l'électron. C'est une interaction locale. Et les variables de l'électron commutent avec les variables du champ. Donc, le champ électrique qui apparaît dans l'équation du mouvement de l'électron, on peut le mettre à n'importe quel endroit, puisqu'il commute avec les opérateurs de l'électron. Par contre, quand on remplace E par E vide plus E source, E vide séparément et E source séparément ne commutent pas nécessairement avec l'opérateur électronique. Donc, alors que le champ E total commute avec les opérateurs électroniques qui peuvent être mis dans n'importe quel ordre, E vide et E source, il faut faire attention, on ne peut pas les mettre dans n'importe quel ordre, ils ne commutent pas. Donc on a l'impression que l'interprétation physique des termes va dépendre de l'ordre qu'on a choisi pour E, E qui peut mettre mis n'importe où. Il y a donc une ambiguïté. Mais on peut lever cette ambiguïté en imposant que quand on remplace E par E vide plus E source, les termes qu'on obtient séparément pour E vide et pour E source soient séparément hermétiques de manière à avoir une signification physique. Et ça, ça a été établi dans la thèse du troisième cycle de Jean Dalibard, et ça impose un ordre qui est l'ordre complètement symétrique. Ça lève l'ambiguïté. Et quand on prend cet ordre symétrique qui conduit donc à des termes qui sont physiques aussi bien pour le vide que pour les sources, on trouve que la force agissant sur l'électron et associée à E vide a le même effet que celle déduite du terme HFV 1/2 de R plus S obtenu plus haut, alors que le terme la force agissant sur l'électron et déduite de les sources a la même expression que celle déduite du terme HRR 1/2 de R moins S exprimé plus haut. C'est une confirmation de l'interprétation de ces deux termes séparément. Il y a un autre argument qui est aussi très joli, c'est que si on prend HFV 1/2 de R plus S et qu'on fait une transformation algébrique dessus, on peut le mettre sous la forme somme sur oméga, de d oméga, sur toutes les modes du champ, cv d'oméga qui est d'oméga, ou cv la fonction de corrélation symétrique du champ du vide, et qui est d'oméga la susceptibilité de l'électron, la susceptibilité linéaire. Et cette forme a une interprétation physique très simple, ça veut dire que le champ du vide fluctue avec des caractéristiques décrites par cette fonction de corrélation, et que ces fluctuations du vide polarisent l'électron qui répond avec sa susceptibilité, et que l'interaction du champ du vide avec la polarisation qu'il induit sur l'électron, c'est ça qui décrit l'effet des fluctuations du vide. Alors que l'autre terme, HRR, 1/2 de R moins S, sa structure est symétrique, on trouve que c'est la fonction de corrélation de l'électron qui multiplie la susceptibilité du champ, et ça veut dire que le dipôle de l'électron, la charge fluctue, de manière décrite par CE, que ces fluctuations polarisent les champs, c'est-à-dire créent un champ avec lequel elles interagissent. Ça, c'est la réaction de rayonnement. Alors, quand on fait ces calculs, à ce moment-là, on peut, sur les effets spontanés, séparer les contributions des fluctuations du vide et de la réaction de rayonnement. Et voilà ce qu'on trouve. On trouve d'abord que l'énergie cinétique, pi 0 2 sur 2m, devient pi 0 2 sur 2m 1 moins delta MRR plus delta MFV sur M. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de masse qui est delta MFV, qui est EV sur MC2, le terme que j'avais trouvé tout à l'heure. L'énergie, l'augmentation de masse liée à la masse au repos associée à l'énergie cinétique de vibration, plus un terme, lui, lié aux réactions de rayonnement, plus 4 tiers de EV sur alpha oméga, lui vient de HRR, réaction de rayonnement. Donc l'une, c'est la masse associée aux fluctuations du vide, et l'autre, c'est la masse qui est celle qu'on voit apparaître aussi dans l'équation de Abraham-Lorentz, qui décrit l'équation du mouvement d'un électron classique interagissant avec son propre champ. C'est la masse électromagnétique de l'électrodynamique classique, et l'intégrale sur oméga de delta MRRC2 donne l'énergie du champ de Coulomb. Donc c'est le propre champ de l'électron qui apparaît comme une masse, une correction de masse qu'il faut prendre. Alors, je passe bien sûr ici sur les problèmes de... Je ne fais pas un calcul covariant, je ne fais pas un calcul d'ordre de normalisation. Donc, vous voyez que dans le domaine non relativiste, comme h bar oméga est beaucoup plus petit que MC2, delta MRR est beaucoup plus grand que delta MFV, et la correction d'énergie cinétique pour les effets spontanés est essentiellement due à la réaction de rayonnement. C'est la réaction de rayonnement qui donne le terme le plus important dans la modification de masse et d'énergie cinétique. L'énergie potentielle. À ce moment-là, on trouve que les corrections de l'énergie potentielle ne viennent que des fluctuations du vide. La réaction de rayonnement ne contribue pas à la modification de l'énergie potentielle, à l'ordre 2 en Q. Et on trouve que la modification de phi, delta phi 0, c'est EV sur 3m oméga 2, laplacien de phi 0. C'est 1 sixième, qu'on peut aussi réécrire sous la forme 1 sixième de delta x2, delta phi 0, delta x2 est l'amplitude du mouvement de vibration dans les fluctuations du vide de l'électron. Et ça, ça permet de retrouver une image qui a été donnée du lamp shift au tout début du développement de l'électrodynamique quantique, qu'on appelle l'image de Walton, et qui est la suivante. Walton disait l'électron vibre dans les fluctuations du vide, il acquiert donc une certaine amplitude de vibration, et il explore le potentiel coulombien du noyau sur un certain volume. Et la correction, quand on fait le calcul, elle est proportionnelle au laplacien de phi 0. Or, le potentiel coulombien est en 1 sur R, donc son laplacien c'est une fonction delta, donc seul l'état 2S, pour lequel la probabilité de présence au noyau n'est pas nulle, va être perturbé par cet effet, alors que l'état 2P ne l'est pas. Et comme cette chose-là est positive, on prévoit que l'état 2S 1,5 va être déplacé vers le haut par rapport à l'état 2P 1,5, et ça c'est le déplacement de l'ombre. Et quand on fait un petit calcul avec les mains, qu'on intègre ceci sur les fluctuations du vide avec oméga d'une valeur petite devant le Rydberg jusqu'à une valeur petite devant MC2, avec une borne supérieure et une borne inférieure parce qu'elles divergent des deux côtés, on ne fait pas de renormalisation ici, on trouve une expression de ce type, avec un terme logarithmique ici qui est très peu sensible à oméga m et à oméga petit m. Et ça, c'est, je crois, un des premiers calculs qui a été fait du déplacement de l'ombre par Weisskopf. Weisskopf, dès que l'ombre a publié son résultat, a fait un calcul de ce type, et ceci donne le bon ordre de grandeur du déplacement de l'ombre, qui est de l'ordre de 1000 MHz pour l'hydrogène. Si on prend maintenant un autre truc très intéressant, qui nous a beaucoup amusé, c'est le taux d'émission spontanée. Ce que j'ai fait ici pour le déplacement des niveaux d'énergie, ça peut se faire aussi pour les taux de perte d'énergie de l'électron quand il est dans un état donné. Et on peut séparer dans la vitesse de variation, la valeur moyenne de la vitesse de variation de l'Hamiltonien atomique dans un état atomique A sans aucun photon. On peut calculer cette vitesse de variation de l'énergie de l'atome, contribution des fluctuations du vide et contribution des réactions de rayonnement. Et alors on trouve un résultat là remarquablement simple. On trouve que RA moins RA RR, la perte d'énergie due à la réaction de rayonnement, est proportionnelle à la valeur moyenne dans A de R seconde au carré. Le carré de l'accélération de la charge dans l'état atomique donné. On retrouve un résultat qui rappelle la physique classique. Un électron rayonne avec une efficacité proportionnelle au carré de son accélération. Ici, on trouve le carré moyen de son accélération. Alors que moins RA FV, on trouve que la perte d'énergie est liée au fait que l'atome dans l'état A peut aller peut subir une transition stimulée vers un état supérieur et gagne de l'énergie, ou vers un état inférieur, il perd de l'énergie. On trouve cette contribution des changements d'énergie dus aux transitions induites par le champ fluctuant du vide de l'état A vers tous les états. Alors quand on tombe un résultat comme ça, on peut se poser des problèmes pour la transition à deux niveaux. Si on a un atome à deux niveaux et qu'on prend l'état excité, on peut calculer la vitesse de perte d'énergie dans l'état excité due à la réaction de rayonnement et à la fluctuation du vide. Et à ce moment-là, on trouve un résultat simple, on trouve que les deux sont égales. Et on trouve que les deux sont égales à R sur 2. Et ceci soulève un paradoxe, résout un paradoxe. Je pense que plusieurs d'entre vous ont dû faire le calcul de la durée de vie d'un état excité, en calculant la valeur moyenne du carré de l'accélération dans l'état excité, en calculant la vitesse de perte d'énergie rayonnée par cette accélération. On trouve le bon résultat, facteur 1,5 trop petit. On peut aussi prendre l'état excité, dire qu'il y a une fluctuation du vide avec 1,5 de la barre oméga par mode, mais ça induit une transition vers le bas, et on trouve aussi un résultat qui est trop petit par un facteur 1,5, la raison c'est qu'il y a deux. Les deux effets sont là, il faut les ajouter pour trouver la bonne valeur. Alors pour l'état fondamental, c'est plus curieux, parce que dans l'état fondamental, la valeur moyenne du carré de l'accélération est aussi non nulle. Donc a priori, si on raisonne purement classiquement, dans l'état fondamental, on devrait perdre de l'énergie. Et si on avait un atome purement classique, c'est pour la raison qu'il ne serait pas stable, il perdrait de l'énergie par rayonnement. Mais il y a le terme de fluctuation du vide qui induit des transitions vers l'état excité, qui augmente son énergie, et on trouve que les deux sont de signes opposés, de sorte que l'état fondamental est stable. Alors, en fait, le résultat, la manière de l'interpréter ici est un petit peu cavalière, parce que les fluctuations de vie n'ayant pas d'énergie ne peuvent pas fournir d'énergie à l'atome pour passer de l'état F à l'état E. C'est une image classique, mais ça montre que la stabilité des systèmes quantiques est liée au caractère quantique du champ. Si on n'introduisait pas les commutateurs du champ qui donnent les fluctuations du vide, l'état fondamental ne serait pas stable. Et que pour que l'atome soit stable, il faut également que le champ soit stable. Une théorie quantique de l'atome n'est pas possible sans une théorie quantique du champ. Alors, moment magnétique de spin, les corrections dues aux fluctuations du vide reviennent à diminuer le moment magnétique, c'est-à-dire qu'on tient compte du mouvement de la charge, ça ne modifie pas le résultat de tout à l'heure, ça l'empire. Le moment magnétique est encore plus réduit que s'il y avait uniquement le couplage avec le champ magnétique. Le moment magnétique et le champ magnétique. Il y a une diminution du magnétisme de spin, la charge d'électron ne modifie pas le signe de l'effet discuté plus haut. Correction due à la réaction de rayonnement. Alors, on trouve un résultat qui est moins élevé H bar oméga sur 3M C2 sigma 2, mais comme sigma 2 égale 3, les deux niveaux de spin sont déplacés de la même quantité, ça ne change pas la fréquence de l'armoire. Alors, dépendance en... Alors, maintenant qu'on a fini tous ces calculs, on peut dire que la dépendance en 1 sur C2 des diverses corrections est la suivante. Toutes les corrections pour le spin, aussi bien réaction de rayonnement que fluctuation du vide, sont d'ordre 1 en C2. Elles sont toutes d'origine relativiste. Alors que pour la particule chargée, la correction en masse, delta MR, est d'ordre 0 en 1 sur C. C'est le terme en élevé sur alpha oméga. Et ça, physiquement, c'est tout à fait satisfaisant. Ça veut dire que dans le domaine relativiste, une charge est beaucoup plus couplée au champ qu'un moment magnétique. Et c'est la raison pour laquelle les effets sur la charge sont beaucoup plus importants que les effets sur le spin. Alors maintenant, je peux aborder le problème de G-2 en prenant un électron dans un champ magnétique uniforme. Si on prend un électron dans un champ magnétique uniforme, son hamiltonien, sans correction radiative, c'est pi 0 2 sur 2m, l'énergie cinétique, moins QH bar sur 2m, sigma B0, l'interaction du spin avec le champ. Pi 0 2 sur 2m, les valeurs propres, c'est les niveaux de lambda O, la fréquence cyclotron, oméga C égale QB0 sur M, les niveaux du spin, c'est la fréquence de l'armoire, oméga L égale GQB0 sur 2M, et pour cet hamiltonien déduit de l'équation de Dirac, on trouve que G égale 2, donc oméga C égale oméga L. Pour un électron non couplé au rayonnement quantique, G égale 2 et la fréquence de l'armoire est égale à la fréquence cyclotron. Si je dessine ici les niveaux d'énergie, voici les niveaux de lambda O, n égale 0, n égale 1, n égale 2, séparés par oméga C. Voici les niveaux avec le spin moins, chacun est décalé de oméga L sur 2, c'est-à-dire oméga C sur 2. Et puis, voici les niveaux plus, spin plus, pardon. Et comme oméga C et oméga L, il y a dégénérescence entre 1 moins 0 plus, 2 moins 1 plus, 3 moins 2 plus. Alors, quand on fait maintenant le calcul que j'ai fait tout à l'heure, on essaie de voir comment les deux termes de l'hamiltonien sont modifiés par les corrections radiatives, on trouve que pi 0 2 sur 2m, l'énergie cinétique, est changée en pi 0 2 sur 2m, 1 moins 4 tiers de EV sur H bar oméga, modification de masse due à la réaction de rayonnement, moins EV sur NC2, modification de masse due aux fluctuations du vide, et le terme de couplage du moment magnétique de spin avec le champ magnétique, c'est moins QH bar sur 2M, sigma B0, 1 moins 0, il n'y a pas d'effet de rotation de rayonnement, moins 5 tiers de EV sur MT2, les fluctuations du vide. De sorte que, étant donné que ces coefficients sont proportionnels à oméga C et oméga L, je m'aperçois que oméga C devient oméga C 1 moins 4 tiers de EV sur H bar oméga moins EV sur MC2, alors que oméga L devient oméga L 1 moins 0, moins 5 tiers de EV sur MC2, avec chaque terme ici clairement identifié. Et alors maintenant, on peut comprendre pourquoi j'ai moins 2 positif. Parce que, comme souvent, il faut revenir à l'expérience. Comment mesure G-2? Les mesures les plus précises de G-2 ont été faites par l'équipe de Demel sur un électron unique piégé. Et ce qu'on fait pour mesurer G-2, on mesure la fréquence cyclotron de l'électron dans le champ magnétique, on mesure la fréquence de l'armoire, et on fait oméga G, la définition de G, G égale 2 fois oméga L sur oméga C. Donc, la mesure expérimentale de G, c'est un rapport de deux fréquences, la fréquence cyclotron, la fréquence de la mort divisée par la fréquence cyclotron. C'est-à-dire dans un piège magnétique, comme c'est le même champ magnétique qui détermine oméga L et oméga C, il se simplifie, et on a une mesure ultra précise parce qu'elle ne nécessite pas la connaissance du champ magnétique à 12 chiffres significatifs. On mesure G comme un rapport de deux fréquences dans le même champ magnétique. Et alors là, on comprend ce qui se passe parce que, finalement, à l'ordre le plus bas en 1 sur C, oméga C est diminué, les deux sont diminués, mais à l'ordre le plus bas en oméga C est diminué à l'ordre 0, alors que oméga ne l'est pas. Il faut aller à l'ordre 2 pour que oméga L soit diminué. Et comme le dénominateur ici est diminué plus que le numérateur, c'est pour ça que G devient plus grand que 2. Donc si G est plus grand que 2, c'est parce que la fréquence cyclotron est plus modifiée par l'interaction avec le champ quantique que la fréquence de l'harmonique. Si vous voulez, une autre manière de dire ça, si G moins 2 est positif, c'est que G est diminué moins que 2. 2 est diminué plus que G par les corrections radiatives. Donc le signe positif de G moins 2 est dû au fait que oméga C est plus réduit qu'oméga L, et que la réaction de rayonnement ralentit le mouvement de la charge, mais ne touche pas au mouvement de précession de l'armor du spin. Alors ceci résout un paradoxe. Je sais que le signe positif de G moins 2, c'est quelque chose qui a beaucoup intrigué les physiciens. Feynman, à plusieurs reprises, parle dans ses cours qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi G moins 2 est positif, parce que l'image de Walton donne un G moins 2 négatif, et Weisskopf avait donné une interprétation en faisant appel aux Zitterbewegungen, au mouvement d'une charge dans l'équation de Dirac qui fait que l'électron apparaît comme un objet délocalisé sur une longueur d'onde de Compton, en disant que c'est ce moment magnétique associé aux Zitterbewegungen qui explique pourquoi le moment magnétique est augmenté, cette image est fausse. Je pense que l'image que je donne ici est l'image correcte, que G-2 est positif parce que oméga C est plus réduit qu'oméga L. D'ailleurs, nous avons eu avec Jacques Dupont-Roch plusieurs discussions extrêmement passionnantes avec Weisskopf au CERN, qui étaient tout à fait d'accord avec l'interprétation formulée. Alors on peut se poser quand même la question maintenant suivante, c'est, on a fait un calcul non relativiste. Est-ce qu'on peut faire un calcul plus précis et essayer de tenir compte de l'effet des modes, non seulement des modes basse fréquence, mais des modes haute fréquence? Alors, avec Jacques Dupont-Roch, nous avons mené un tel calcul au bout, en prenant toujours la méthode de l'Hamiltonien effectif, mais maintenant en incluant les effets relativistes à tous les ordres, dans les états intermédiaires, plus de restrictions sur h bar oméga sur mt2, et en incluant les effets à plusieurs particules, création de paires, c'est-à-dire en prenant le champ de Dirac quantifié, en appliquant la théorie, le modèle de l'Hamiltonien effectif à ce problème. À ce moment-là, on trouve que l'Hamiltonien effectif, c'est pi 0 2 sur 2m, 1 moins alpha sur pi, somme de 0 à xm, où xm est une coupure vers le haut, de eta de x dx, et puis une formule analogue pour l'énergie magnétique, où x est un ensemble de dimensions qui est h bar oméga sur mc2, xm, la coupure, c'est h bar oméga m sur mc2, et alpha, c'est la constante de structure fine, q2 sur 4 pi epsilon 0 h bar c. La théorie élémentaire précédente que j'ai donnée auparavant donne le développement de ces fonctions, état de x et zeta de x, à l'ordre 0 et 2 en 1 sur c. Ici, on a des expressions à tous les ordres en 1 sur c. Alors, si on fait ceci, et si on définit la masse renormalisée m étoile par m facteur de 1 plus alpha sur pi, somme de 0 à xm de état de x de x, la masse qui apparaît dans l'énergie cinétique, qui est donnée plus haut, celle-là. Et si on réexprime tout en fonction de la masse renormalisée, on trouve que l'Hamiltonien effectif, c'est pi 0 sur 2m étoile, l'énergie cinétique avec la masse renormalisée, plus ou moins QH bar sur 2m étoile, sigma B0, 1 plus alpha sur pi, somme de 0 à xm, de état de x moins état de x dx. Et il se trouve à ce moment-là que cette intégrale-là peut être calculée et qu'elle est convergente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre une coupure, on peut aller jusqu'à l'infini, et quand on fait l'intégrale, on trouve alpha sur du pi, on trouve le résultat correct de l'électrodynamique quantique. Autrement dit, c'est un calcul perturbation vieille mode, il n'est pas covariant, mais il a l'avantage de séparer tous les effets physiques, et il permet de retrouver donc le alpha sur du pi. Et alors, ce qui est amusant, c'est de porter sur un diagramme, en fonction de x, rappelle que x est h bar oméga sur mc2, la quantité eta de x moins eta de x, dont l'intégrale donne alpha sur 2π. Et vous voyez que si on prend les modes non relativistes, x plus petit que 1, cette fonction-là est positive, ça veut dire que l'essentiel de g moins 2 vient des modes non relativistes. Les modes relativistes, h bar oméga beaucoup plus grand que mc2, donnent une correction plus petite, mais qui est négative, qui est mauvaise de l'autre signe. Donc ça veut dire que l'essentiel de l'intégrale provient de x plus petit que 1, c'est-à-dire des modes non relativistes, et que donc l'analyse précédente aux ordres les plus bas sur 1 sur c2 donne l'image physique correcte. Donc, je crois maintenant que je peux résumer ce calcul. Finalement, il y a une possibilité de séparer clairement dans les corrections radiatives, aussi bien pour les effets réactifs, déplacement de niveau, modification de niveau d'énergie, que pour les effets dissipatifs, perte d'énergie par rayonnement. On peut séparer clairement les contributions des fluctuations du vide et les contributions de la réaction de rayonnement. Deuxième conclusion, les corrections radiatives peuvent être toutes décrites en termes d'image physique simple, soit la vibration de la charge et du spin dans les fluctuations du vide, avec des effets croisés qui peuvent être plus ou moins subtils, soit une inertie électromagnétique provenant de la réaction de rayonnement et qui ralentit le mouvement de la charge. Troisième conclusion, le déplacement de l'onde est essentiellement dû aux fluctuations du vide, et l'image de Walton est correcte, alors que G-2 est surtout dû à la réaction de rayonnement. C'est amusant de voir que les deux effets essentiels sont essentiellement dus à un effet ou à l'autre. Et enfin, dernière conclusion, un calcul complètement relativiste ne change pas ses conclusions. Donc, j'ai essayé donc de vous montrer aujourd'hui comment les perturbations des niveaux d'énergie par la lumière, soit résonantes, soit haute fréquence, permettaient de rassembler dans un même cadre toute une série d'effets physiques différents, effets physiques qui continuent à jouer un rôle important actuellement dans les gestions de Bose-Einstein condensation, et effets physiques aussi qui sont importants pour l'interprétation des effets d'électrodynamique quantique. Je sais bien que beaucoup de physiciens des hautes énergies considère qu'avec les calculs covariants et les diagrammes de Feynman, on peut calculer toutes ces corrections très rapidement et on peut les... Mais je pense que, comme des physiciens comme Weisskopf, il est important aussi d'essayer de comprendre la physique des corrections radiatives et d'essayer d'avoir des images physiques simples permettant de comprendre leur ordre de grandeur, les mécanismes à la base et leurs signes. Voilà, je vous remercie.